c'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Allez, bien le bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Sport, exactement, et bien une sixième émission, une émission qui décrypte, vous en avez l'habitude, l'actualité sportive de la Lozère, avec également l'actualité nationale et internationale, et après ce week-end pluvieux, on va pouvoir sortir les pagaies, car je vous préviens, on va ramer. On aurait pu ne pas ramer si tous nos intervenants étaient là, mais Patrick Biancone n'est pas là. Luc, salut.
Salut, bonjour tout le monde.
Tu as vu Patrick Biancone dans le coin ?
Je crois que je l'ai vu divaguer à demi-ivre devant un estaminet du boulevard du Soubéran.
C'est ce qu'on nous a dit.
On n'attend pas Patrick.
Voilà, on n'attend pas Patrick, mais peut-être qu'il nous rejoindra si il arrive ou si quelqu'un le voit, si on peut le ramener ici de gré ou de force, ça serait sympa.
Surtout de force.
Surtout de force. Salut Laurent qui est toujours là, mon petit bonhomme, ça va bien ?
Ça va, bonjour à tous.
Alors comme invité aujourd'hui, c'était pas voulu, mais on a trouvé quelqu'un que les intempéries ne gênent pas pour faire son sport vu qu'il se situe dans un gymnase. C'est Constant Chouassi, l'entraîneur du monde volleyball, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Bonjour Constant.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors comme d'habitude, on va décrypter d'abord l'actualité des autres sports lozériens avant de parler de volleyball aujourd'hui. Et ça va aller vite vu que, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de matchs au week-end. Déjà en basket, pas de match. Pourquoi Luc ?
Parce que c'était une journée de repos.
Journée de repos.
Il en faut des fois.
Vous vous reposez au basket comme
ouais,
ça des
on
fois.
Essaie.
C'est
on
pas, c'était pas la Coupe de France ni rien, c'était juste.
Non, c'est juste qu'il y a un trou dans le calendrier et que voilà, c'est comme ça. Mais par contre, on retrouve le chemin des terrains dès samedi, puisque les filles reçoivent Saint-Christol et les garçons reçoivent Montpellier, je crois, ou Sérignan.
D'accord. Les garçons voilà. Vont perdre contre Sérignan.
C'est probablement ça. Et ça se jouera au gymnase du lycée Notre-Dame cette fois.
D'accord. Beaucoup de matchs à domicile le week-end prochain. Déjà,
oui.
Le basket qui joue à domicile. Il y aura le volley, le hand aussi, garçons et filles. Voilà, il n'y a que le foot qui se déplace à l'extérieur pour la
exactement.
Coupe de France. On en dirait un mot tout à l'heure. En rugby, pas de match également suite aux intempéries. Report du match du RCML qui devait se déplacer à Rive-d'Orbe.
Oui, le rugby qui recevra aussi d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine.
Tout le monde joue à la maison la semaine prochaine.
Il me semble bien,
oui. Ouais, excellent. Donc le rugby, on se donne rendez-vous lundi prochain pour si jamais le match a lieu. On ne sait pas, il y aura encore peut-être de la pluie le week-end prochain. Alors il en est de même en football pour Marvejol et l'avenir Foot Lozère. La DDFL a décidé d'annuler toutes les rencontres de championnat prévu ce samedi et ce dimanche.
Alors c'est la Ligue, hein. C'est la DDFL je crois avait maintenu sa journée.
Ah. Et finalement l'a déplacée au week-end prochain.
Bon. Mais par contre c'est la Ligue qui a annulé, la Ligue et le district d'Arlozère qui ont annulé toutes leurs rencontres.
À juste titre.
À juste titre, oui, parce que la décision est prise le vendredi généralement. Voilà, c'était plus sain plus logique de tout annuler.
D'accord, et on comprend pourquoi au vu du temps qu'on a eu ce week-end.
Oui, du temps. Du temps qu'on a eu, et puis surtout la situation peut être catastrophique, notamment dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales et l'Aude, qui sont. D'ailleurs, je crois que l'AFL devait se déplacer dans l'Aude à Carcassonne.
À Corbière.
À Corbière, oui, c'est
Narbonne. Qui est durement touché aussi par les inondations.
Voilà, et on pense à eux. En Auvergne, ça a joué, mais peut-être qu'il aurait fallu annuler, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, le terrain était à la limite du praticable. En Ligue Auvergne, l'Entente Nord-Lozère qui se déplaçait à Clermont-Ferrand pour jouer contre Clermont-Saint-Jacques. Alors, le NL revient avec un match nul, 0 partout, après avoir dominé la rencontre, donc un mauvais match nul pour l'équipe de Nord-Lozère, Laurent.
Donc, un match nul à l'extérieur, c'est pas toujours un mauvais match nul. Ce qui est décevant, c'est que le NL a raté un pénalty en fin de première période. Donc, évidemment, quand on fait 0-0 à la fin du match, on peut s'en mordre les doigts. Mais sinon, après, un match nul à l'extérieur, c'est pas toujours mauvais. Le club de Arpajon qui colle l'ENL en tête du classement n'a pas joué, son match a été remis. Donc l'ENL prend un peu plus de distance sur Arpajon qui sera obligé de gagner pour repasser en tête. Ça leur met une petite pression, mais voilà, bon, match nul à l'extérieur, c'est pas si mauvais que ça.
Ouais, il avait prévenu le coach de l'ENL que ça allait être un match très très compliqué. C'est une équipe assez physique, donc voilà, il s'attendait à ce que ce soit pas simple ce déplacement à Clermont-Saint-Jacques. Donc Saint-Jacques, c'est un quartier de Clermont où il y a notamment un club de basket qui a fêté son centenaire il y a pas très longtemps.
Ah bon ?
Oui, l'Alpha Saint-Jacques.
Très bien. Constant, tu suis les autres sports lausériens ?
Oui, je suis les autres sports, en particulier le foot, bien sûr, parce que je connais très bien Stéphane l'entraîneur et Fadil aussi, donc je suis le foot et puis j'ai une culture foot. Donc j'ai commencé ma carrière de sportif comme footballeur.
D'accord, tu jouais quel poste ?
Défenseur central.
D'accord. Eh bien, il va falloir chausser les crampons pour aller les aider aussi de temps en temps. Remarque, vu le nombre d'absents dans ton équipe, c'est peut-être pas les crampons que tu vas chausser. Donc 0-0, on le rappelle, l'ENL qui reste leader, donc match difficile. Il paraît que la seconde mi-temps, terrain catastrophique, ça l'était déjà au début du match, après une mi-temps, c'est souvent le cas. Donc il reste leader, Arpajon a tout de même un match de moins, on suivra l'équipe du Nord-Lozère. Allez, on va aller au chaud dans les gymnases, tout d'abord dans le gymnase d'Annecy avec le MGC. En handball, les seniors garçons n'y arrivent toujours pas avec une défaite de 2 buts, 37 à 35. Alors la situation se complique, après 8 journées, le club mondois est avant-dernier avec 11 points, une victoire, un nul et 6 défaites. Alors comme les derniers matchs, ce qui est rageant, c'est que ça se joue de peu. Pour le match donc de ce week-end, l'équipe était devant 7-4 à la 15e, 15-14 à la mi-temps pour Annecy, 23-23 à la 42e, 34 partout à l'entame des 3 dernières minutes. Et voilà, un poteau de Jérémy Giral suivi d'un but d'Annecy. Et bon, Luc, on en avait parlé la semaine dernière avec notre invité Maxime André. Les matchs qui arrivent, dont celui du week-end dernier, étaient des matchs essentiels en vue du maintien. Donc une très mauvaise opération pour les garçons du MGC.
Ouais, c'est pas une bonne opération du tout. Là, j'ai eu Vincent De Vulder dans la semaine, qui effectivement le coach du MGC, qui avait clairement dit qu'ils allaient là-haut pour gagner. Après, il m'a aussi dit que c'était compliqué d'avoir de l'ambition avec un groupe qui est pas nécessairement très très nombreux aux entraînements et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu son problème en ce moment.
Ouais, c'est ce que nous expliquait Maxime la semaine dernière.
Maxime, voilà, c'est d'avoir et ça, je pense que Constant l'a connu aussi. C'est de te retrouver avec la moitié de ton équipe qui est là le vendredi pour mettre en place des choses. C'est un peu compliqué.
Effectivement, c'est très compliqué parce que pour la cohésion d'équipe, pour essayer de travailler la tactique, et c'est sûr que quand il n'y a pas tout le monde.
Ouais, c'est le cas cette année pour le MVL ou pas ?
Non.
Non, là c'est mieux.
Depuis des saisons, on a essayé de travailler dans ce sens-là pour que tous les joueurs soient dans la ville. Mmh. Et ensuite, pour que tout le monde soit aux entraînements, ça nous permet de pouvoir travailler sur la durée, de pouvoir mettre des choses en place.
Combien d'entraînements par semaine tes joueurs ?
Maintenant, c'est, on va dire, un entraînement tous les jours.
Un entraînement tous les jours ? Ah ouais.
Pratiquement. Pour rivaliser, on ne peut pas faire moins.
Ok.
Parce qu'on commence à toucher le niveau professionnel.
Et oui, bien sûr.
Pour revenir au hand, là, le match de ce week-end à Annecy, je vois quand même que l'équipe a marqué 35 buts. Donc j'avais assisté la semaine d'avant au match contre Voiron, où j'avais été peut-être un peu dur. Vous avez marqué que 20 buts et j'avais dit que Jérémy Giral et Damien Portebled, les buteurs habituels, n'avaient pas marqué ou un but. Là, cette fois-ci, 35 buts, donc c'est quand même encourageant. Et cette fois-ci, ces deux joueurs ont marqué 9 buts à eux deux. Mais maintenant, il va falloir travailler la défense, a priori. Alors, l'autre point encourageant, c'est que ce week-end, l'équipe de hand reçoit Meylan, qui est 10e, donc juste une place au-dessus. Donc, il faut évidemment, il n'y a pas d'autre solution que la victoire pour sortir peut-être, ou au moins dépasser cette équipe de Meylan et prendre un peu d'aise, quoi.
Ouais, et puis se redonner confiance, je pense aussi, parce que là, ils enchaînent. J'ai pas fait le compte, mais peut-être pas 6 victoires, 6 défaites d'affilée, mais on n'est pas loin de ça. Quoi.
On n'est pas loin, il y a le match nul entre temps de Saint-Flour.
Mais je pense que c'est pas une bonne spirale.
Oui, mais ce qui est rageant, c'est que ça se joue de peu. Là, depuis 3-4 matchs, on est égalité au dernier moment. On en avait parlé avec Maxime la semaine dernière, de savoir si c'est un problème de mental, de cohésion. Mais t'as raison, peut-être que c'est un problème de défense aussi. En volée, Constance, c'est comme dans les autres sports, la défense est la meilleure des attaques ou pas?
Oui. Ouais. Oui. Parce que comme dans tous les sports, la défense te permet de durer. Et alors que l'attaque, ça te permet juste de gagner de manière, on va dire, sporadique. De toutes les façons, moi, quand je travaille, je base déjà tout sur le système défensif. Parce que quand vous avez une bonne assise défensive, après, le reste peut suivre. Vous avez les bases, vous avez les fondamentaux qui vous permettent, même sur des périodes où vous êtes moins bien, de pouvoir quand même tenir. Si vous n'avez pas la défense, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme ça dans tous les sports.
Costin, il a un peu le discours de Carlo Ancelotti quand il était au PSG. Malgré toutes les stars offensives qu'il y avait, Carlo Ancelotti jouait à 10 derrière.
Ça, c'est la culture italienne, c'est pas pareil.
Parce que t'aimes pas le PSG aussi.
Tu serais un peu italien, Costin, c'est ça?
Non, je suis pas italien.
Non, mais c'est vrai.
T'as pas joué en Italie?
Non, c'est mon plus grand regret. J'ai eu un pré-contrat en Italie, c'est là où ma carrière a basculé. J'ai signé à Pineto en Italie quand je jouais en Ligue A. Et j'ai laissé Saint-Brieuc où j'avais été élu meilleur sportif breton de l'année devant un footballeur John Utaka.
Et en
allant en Italie avec ce pré-contrat, bon, en fait, c'est pas comme en France, les contrats ne sont pas garantis. Parce qu'en France, quand même, nous, on a beaucoup de chance par rapport aux contrats. Les contrats ne sont pas garantis. Donc, à l'intersaison, mon entraîneur est parti dans un autre club et mon contrat, il est devenu caduque. Donc, je me suis retrouvé comme ça un petit peu dans la rue. Et je suis parti en Turquie. Je suis revenu à Chaumont, qui a maintenant un gros club de Ligue A, où on a fait du bon boulot, mais ça n'a plus jamais été pareil. Ça n'a plus jamais été pareil. En fait, ça a été un petit... Je n'ai plus joué pour moi. Je n'ai plus joué pour faire carrière. J'ai commencé à jouer uniquement pour voir les gens heureux. Quel que soit le match que je faisais, ça ne m'intéressait plus parce que je savais que j'étais passé à côté de quelque chose de mon rêve d'enfance, quoi.
Et oui.
Mais bon, ce sont des choses qui
arrivent.
Voilà, qui font partie
pour beaucoup de sportifs.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Laurent aussi joue pour rendre les gens heureux, mais personne ne va le voir parce qu'il est dans l'équipe 3 de l'AFL.
les gens, ils pleurent de joie quand ils le voient déborder.
En basket, Luc, pareil, hein, défense, c'est le premier truc à bosser.
Ah, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que l'attaque fait gagner les matchs et la défense fait gagner les titres. Donc, oui, effectivement, si tu arrives à maintenir ton l'équipe adverse. À la contenir défensivement, bah après c'est beaucoup plus facile pour lancer les attaques et effectivement pour gagner les matchs.
Alors le meilleur des exemples, c'est les filles du MGC qui l'ont emporté 26-13 à Ramon. Donc bravo à Marie Almeras qui était également là la semaine dernière et à ses coéquipières. 26-13, seulement 13 buts encaissés. Laurent, ben voilà la plus belle des
bravo
exemples.
Bravo les filles, on les a un peu boostées la semaine dernière. Alors c'était pas à Ramon, c'était à domicile.
C'était à domicile.
Et elles avaient le match de Coupe de France
le lendemain.
Voilà. Qui a été annulé. Orange a déclaré forfait. Donc, du coup, elles sont qualifiées de match de victoire.
Je ne sais pas si c'est dû aux conditions météo, mais enfin, elles passent un tour suivant.
Je ne crois pas, parce que pour monter d'Orange, il n'y a pas de soucis. Non. Si Ramon a pu monter, je pense que.
C'était par rapport à la troisième mi-temps, les filles du MGC les avaient invitées, elles ont pris peur, elles ont dit oulala, on ne pourra jamais repartir autant qu'on n'y avait pas du tout. Donc un week-end parfait, 26-13, bravo aux filles.
Donc les filles qui sont classées 4e à un point du 3e que sont les filles de Lunel.
Voilà, et c'est en play-off, play-down aussi les filles, hein, je crois. Non, c'est pas ça.
Non, c'est championnat tout court.
Je pense que tu vas recevoir un message de Marie qui va dire oui, il a raison.
Ça va pas tarder,
il a raison, les 4
Marie, si tu nous écoutes.
Arrêtez de dire n'importe quoi.
Alors, prochain match.
C'est leur première victoire. Non, j'ai compris.
Non. Prochain match samedi à la Vernède à 18h30 contre Jacou. Donc, pareil, filles et garçons qui joueront à domicile samedi prochain.
Il y a une concurrence terrible ce week-end.
Ah oui, ce week-end, qui allait voir hein, le volley, le basket, le hand, le foot surtout, à l'extérieur, surtout, mais à 16h, donc ça permet d'aller voir les autres sports le soir.
Et d'écouter en même temps, peut-être.
Voilà, alors normalement, on vous tiendra au courant cette semaine, mais normalement, avec notre ami Laurent, on va reformer le binôme Coupe de France. On devrait aller commenter le match de Coupe de France à Saint-Etienne.
Alors, peut-être qu'ils le commenteront, mais que personne n'entendra.
On a des problèmes techniques, juste pour savoir, parce qu'Andrézieux doit changer de stade, donc ils n'ont pas de liaison internet, de ligne internet dans la cabine des journalistes, etc. Donc on est en train de chercher un moyen pour que quand même commenter ce match et je pense qu'on va y arriver.
Je crois que de toute façon, deux accréditations sont réservées à la buvette du stade d'Andrézieux.
Voilà, au cas où, on donnera les résultats bière d'Andrézieux et bière de Mende pour savoir qui gagne. Allez, toujours en dalle, en Orlozère, les féminines du HBNL s'imposent 21-13 contre Riom et restent premières de leur poule. Les garçons s'imposent également 30-24 contre Aurillac. Donc des poules, des championnats, des divisions inférieures à celles de Mende, mais voilà, les clubs du Nord-Lozère marchent, donc c'est à... il faut bien sûr en parler. Allez, on passe au volley donc avec notre invité Constant Chouassi. L'équipe du MVL a perdu ce week-end 3-7-1 à Saint-Jean-Dillac. On dit Dillac. Donc deux équipes qui se tenaient. C'était un match important pour passer ou dans la première partie du classement ou descendre dans la seconde. Et finalement, Constant, une défaite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce match?
Disons qu'on a, rencontré une très belle équipe, hein, une équipe assez homogène, qui a un très très bon fond de jeu. Pour moi, c'est l'équipe qui possède le meilleur fond de jeu de toutes les équipes qu'on a jouées jusqu'à présent.
Le classement d'Ilac, c'était quoi avant le match?
Troisième.
Troisième,
et Mende était quatrième, il
voilà,
me semble.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc ça se tenait.
Voilà, nous sommes partis dans ce déplacement-là sans Donovan Théavaillé, notre central, l'un de nos atouts offensifs, donc qui avait quelques petits soucis, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on a produit du jeu, mais il nous a manqué toujours un petit peu un bon pourcentage de side-out, c'est-à-dire que gagner les points quand ils ont le service, pour pouvoir mettre justement, on parlait des défenses tout à l'heure, notre bloc défense en place. Donc à partir de là, on a souvent été un petit peu en difficulté. Et on était fébrile, comme ces derniers temps, on est un petit peu fébrile dès que le rapport de force est engagé. Donc ce sont des choses qu'il faut qu'on travaille. Après, c'est le volet, hein, ça, ce sont des détails. Hein. On sort de là avec deux blessés, Foudé Keita, une petite pointe à la cuisse, le pointu, donc bon, voilà.
Le Prado qui s'est tourné le genou,
voilà,
apparemment.
Il s'est tourné un petit peu le genou. Bon, je suis passé hier, il m'a dit que ça allait. Bon, on verra ce que ça va donner dans la semaine avec les soins.
Bon. Ça commence à être juste au niveau de l'effectif?
Juste, non. Ça va, on a un effectif quand même assez conséquent qui a été battu sur la durée, donc bon... Il y a juste qu'il y a des périodes un peu de méforme, il y a des périodes où on est un petit peu moins bien. Et bon, peut-être que nous sommes dans le dur en ce moment, tout simplement.
Peut-être qu'il va falloir intégrer quelques jeunes, alors du coup, qui ont un peu moins d'expérience que ces joueurs-là. Mais de la fougue.
Déjà, bon, la satisfaction, c'est que samedi, Mathieu Sarus, qui est un jeune du club qui vient d'avoir 16 ans, a pu jouer et il a fait une belle entrée.
Super. Donc,
16 ans, c'est jeune. Hein.
Oui, c'est jeune. 16 ans, il a fait une belle entrée, donc bon, voilà.
Soit c'est les jeunes, soit c'est Constant qui remet les shorts pour...
Je sais que tout le monde attend que ça, non. Après, ouais, il faut... Bon, s'il faut, je le ferai.
Fait combien de temps que tu as arrêté de jouer, alors?
Depuis la saison.
Le début de la saison, là?
Non, je n'ai pas joué.
Oh, c'est bon.
Tu es encore en forme, alors, ça va.
Faut expliquer que jusqu'à l'année dernière, Constant était entraîneur-joueur, c'est-à-dire qu'il avait la double casquette. Et cette saison, donc, il n'est plus qu'entraîneur, ce qui, je pense, c'est pas plus mal pour toi de pouvoir te concentrer que sur une seule chose.
Oui, c'est une très bonne chose. Mmh. C'est une très bonne chose parce que moi, ça me permet vraiment de bien travailler, d'être justement concentré sur l'équipe, comment la faire progresser, etc. Alors que l'année dernière ou les années antérieures, il fallait aussi que je pense un petit peu à moi. Et après, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est entraîneur, jouer assez de recul pour savoir quand est-ce qu'il faut se sortir. Au niveau des discours, déjà, il faut avoir une certaine légitimité auprès des coéquipiers. Et dans des moments où il n'y a pas de victoire, c'est très, très compliqué. Mmh. Donc, c'est une gymnastique de tous les instants. Donc là, au moins, je me concentre sur l'entraînement. Et puis voilà, j'essaie d'apporter ce que je peux à ce groupe-là.
Il y a Frédéric Dumortier qui vient de m'envoyer un message qui est d'accord aussi pour incorporer l'équipe si besoin. Mais bon. Luc, toi qui suis le MVL, un mot sur cette équipe cette année. Donc on l'a dit, c'est compliqué. On remonte en élite, ce qui est, à notre avis, de tous les consultants, le vrai niveau du MVL. Par contre, il y a une grosse différence par rapport à l'an dernier. Ça reste un championnat super compliqué, Luc, toi qui suis l'équipe.
Ouais, c'est un championnat compliqué qui, je pense, est assez homogène, relativement homogène. Bon, à part Brive peut-être qui est un peu largué.
6 points Brive dernier.
Qui a 6 points. Fréjus qui a fait le trou devant aussi, mais qui va venir samedi à Piancourt.
Prendre une défaite et donc redescendre.
Voilà, et je crois que les Mandois les attendent de pied ferme parce qu'ils n'ont pas vraiment digéré le match aller, Constant.
Oui, le match aller, on avait fait un non-match. c'était la première fois que ça, ça nous arrivait. Mais bon, donc la vidéo, elle est bien au chaud. Donc si les gars ont oublié,
On va la ressortir. Tu disais qu'Iac avait le meilleur jeu pour toi du championnat pour l'instant, meilleur que Fréjus.
Le meilleur fond de jeu.
Meilleur fond de jeu que Fréjus. D'accord.
Meilleur que Fréjus. Nous, on a potentiellement l'une des meilleures équipes du championnat, à mon sens. Après, nous sommes, les entraîneurs sont toujours comme les parents. On se voit toujours un petit peu, voilà, un peu plus beau. Bon, mais quand même, avec un peu de recul par rapport à ce que j'ai vu, on est une équipe, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Sauf que sur la durée, on n'a pas encore cette... voilà.
Et moi, je constate qu'au classement, on est passé cinquième. Alors, je dis on, parce que bien sûr, supporter du Mans Volleyball. Passé cinquième avec déjà 3 points de retard sur Conflans.
Oui. Sur le quatrième, oui.
Donc, alors s'il y a bien cette histoire de
bonus,
de poulotte et poule basse, là, donc,
ah, pour l'instant, on est en poule basse.
Là, pour l'instant, on est en poule basse avec le risque en fin de saison de peut-être descendre, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Donc,
bien
sûr. Et donc, il faut à tout prix gagner Fréjus ce week-end pour recoller à Conflans et voir les doublés bientôt.
Oui, bon, après, l'analyse, elle a toujours se fait de manière globale. C'est-à-dire que on est une équipe. On a un potentiel, on a un fond de jeu qui est assez correct. Si on arrive, nous, le MVL, à jouer à un certain niveau, avec au maximum de nos possibilités, on se maintient. Point final. Après, le classement, tout ça, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. C'est ce qu'on va faire semaine après semaine, jusqu'au dernier match du championnat. Donc,
Et le contenu samedi, ça vous a satisfait ou pas?
Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Donc il va falloir déjà, nous on est fébrile, c'est-à-dire qu'actuellement mentalement on est fébrile. Dès qu'on rentre dans le rapport de force, souvent on se fait décrocher rapidement. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut travailler.
Et comment on travaille justement ça? Parce que travailler la défense ou le service, bon ben on s'imagine, mais travailler le mental, comment on travaille le mental?
Ben on va mettre les joueurs en situation de duel. Donc, on va faire des exercices de contrat. Donc, qui va travailler votre mental. Je vais prendre un simple exemple. Je vais vous dire, vous avez 15 ballons attaqués. Sur les 15 ballons attaqués, il va falloir que vous fassiez 11 points. Et tant que vous n'avez pas fait 11 points, on va recommencer.
Donc,
vous voyez déjà qu'on a déjà, bon, il y a déjà du jeu, mais on a déjà quand même affaire à l'aspect mental. Il y a beaucoup de communication. Il faut que les joueurs, entre eux, ils arrivent à communiquer. On va mettre des principes de jeu aussi qui va nous permettre d'avoir une certaine assise. On va dire, on va pas perdre 3 fois le service. Donc, ça signifie que si lui l'a perdu, moi, il faut que je pète pas. Donc, voilà. Ce sont des choses comme ça qu'on va mettre en place et qu'on va bien faire comprendre aux joueurs que c'est indispensable pour pouvoir produire du jeu. Donc,
voilà, ou l'entraînement ce soir, ça va donner, là. Sans mal.
C'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs aussi, ça joue là-dessus.
Oui,
même
s'il
y a des joueurs d'expérience qui
encadrent aussi. C'est exactement ça. C'est qu'on a quand même, quoi qu'il en soit, c'est une équipe jeune. Après, généralement, les erreurs qu'on commet, c'est qu'on regarde souvent la moyenne d'âge des joueurs pour dire si une équipe elle est jeune ou pas. Vous pouvez avoir une équipe jeune uniquement parce que, quel que soit l'âge des joueurs que vous avez, évolue à un niveau où ils sont des jeunes joueurs. Donc, sauf que nous, on a déjà des jeunes joueurs en âge et 70% de l'effectif découvre l'élite. Donc, ça fait que forcément, on est aussi un peu, quel que soit le potentiel qu'on a, on est aussi un petit peu en apprentissage.
Même s'il y a des garçons comme Georges ou Mario.
Voilà, Mario, Faudé, qui ont l'habitude. Donc,
tout à l'heure, tu nous parlais de vidéo. Donc, a priori, tu travailles avec la vidéo, c'est-à-dire vous filmez les matchs aller et puis vous en servez pour les matchs retour. Comment ça se passe? Ou alors, tu as des tuyaux de d'autres personnes? Enfin, comment ça se passe pour analyser l'adversaire, en fait?
Donc, on filme déjà le match aller. Mmh. On se passe les vidéos entre collègues, les collègues avec qui on s'entend. Donc, je dois avoir minimum 4 vidéos de l'adversaire pour pouvoir faire un plan de match. Quand j'en ai 3... Je ne donne pas si j'en ai 3 ou 2, je ne donne pas des feuilles de route aux joueurs. Je donne que des consignes. Mais une fois que j'en ai 4, je sais qu'avec 4 matchs, j'ai des données beaucoup plus pointues. Ouais. Pour pouvoir, et ensuite, on fait des séances vidéo quand je trouve qu'il y en a besoin. Il y a des matchs où je trouve qu'il n'y a pas besoin de vidéo. Je ne veux pas faire une séance de vidéo pour faire une séance de vidéo. Mais c'est vraiment important.
La séance vidéo, tu la partages avec tes joueurs ?
Oui, je la partage avec mes joueurs.
Ou c'est que pour toi ?
Non, je la partage avec mes joueurs.
D'accord.
Quand il y en a besoin.
Il y a un match qui a duré 2h30 cette saison, non ? Ou un truc comme ça. Alors ça, la séance vidéo, elle est longue. Hein. Il faut qu'il prévoie de rentrer tard.
De toutes les façons, la séance vidéo, encore une fois, c'est toujours pareil.
C'est concentré.
L'entraîneur, le plus important, c'est toujours ton équipe. C'est comment elle joue. Donc, il y a parfois, j'ai filmé des séances d'entraînement pour voir comment mon équipe joue, comment ils évoluent à l'entraînement. Et s'il y a besoin, j'essaie de débriefer avec les joueurs. Après, l'équipe adverse, on va prendre des choses qui ressortent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, des choses où on a quand même des certitudes. Après, le reste, ça va rester. C'est un jeu.
Sur des services, par exemple.
Voilà, des zones préférentielles. Parfait. Ouais. Des zones préférentielles des services, des habitudes de passe, des choses qui vont donner des éléments.
Ça, tu l'as appris quand tu étais en milieu professionnel ou
oui, quand on était professionnel, ce sont les choses qu'on faisait. Et après, quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur aussi, ce sont des outils dont un entraîneur a besoin pour connaître, parce que pour connaître son adversaire.
Ah oui.
Donc c'est ça aussi. Il y a un livre que moi je lis, que j'aime beaucoup, c'est L'art de la guerre. C'est un livre qui a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Lao Tzu.
Voilà.
Ah, je crois que c'était Machiavel.
Non, c'est
le prince
Sun Tzu.
Machiavel.
Ah oui.
C'est Sun Tzu. Donc, ça veut dire que la parfaite connaissance de ton équipe te garantit la victoire et la défaite. La parfaite connaissance de ton équipe et de l'adversaire te garantit souvent la victoire. Parce que si tu connais ton équipe et tu connais comment l'adversaire joue, tu as un avantage sur eux. Donc, on essaye. Bon, après. Après, ça reste un jeu. Hein.
Peut-être on peut juste rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas que Constant, avant d'être entraîneur, il a été un joueur à très haut niveau. Tu as joué en Allemagne, je crois, c'est ça ?
Oui, j'ai joué au Qatar, j'ai joué en Allemagne, et puis j'ai joué en France un petit peu, en équipe nationale aussi Oui, j'ai joué en équipe nationale du Cameroun. Ouais, j'ai fait les championnats du monde, j'ai représenté j'étais meilleur joueur dans mon pays aussi, j'ai été champion d'Afrique. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu.
Donc un bon CV déjà pour commencer.
Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu.
Souvent quand on parle de Cameroun, on pense au foot, on ne sait pas que le Cameroun, il y a une équipe de volley aussi.
Il y a une grosse culture de volley, ouais. C'est le deuxième sport, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'après le foot, c'est le volley.
On vous appelle d'ailleurs, les Lions Indomptables aussi ou pas ?
Si. Pareil, c'est ça.
D'ailleurs, le passeur Georges Carly du MVL avait été élu 4 ou 5e passeur des championnats du monde.
Du monde en 2010, et là il reçoit des championnats du monde.
Il y était aussi,
en Pologne. Donc.
Combien a fini le Cameroun en Pologne ?
En Pologne, ils ont fini parmi les derniers.
Ah, d'accord.
Parmi les derniers cette fois-ci. Il y a 4 ans, c'était un meilleur classement là, ils sont passés à côté.
Ça dépend des générations aussi, j'imagine. Il y a toujours des générations dorées, d'autres un peu moins fortes.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as pour objectif, peut-être plus tard, de retourner dans ton pays et faire profiter de ton savoir d'entraîneur là-bas ?
Oui, bien sûr.
À la sélection, entraîneur de la sélection ?
Entraîneur de la sélection, peut-être pas. Bon, c'est vrai que comme je suis un jeune entraîneur et de par mon passé, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup des entraîneurs. C'est pour cela que j'ai eu beaucoup de chance, il faut le dire. Et je profite ici pour remercier Jean-Marie Velli, le président du MVL, l'ancien président, parce que maintenant c'est Vincent Mouton. Bon, c'est pareil l'un l'autre. Voilà, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir faire ce que, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que bon, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup qui entraînent, même déjà rien qu'à mon niveau. Et que c'est vrai que dans mon pays, parfois on en parle, quoi, mais ce n'est pas ma priorité. Après, ma retraite, pour répondre à ta question, ma retraite se fera au Cameroun. J'aurai un terrain de volley devant chez moi et je vais m'occuper des jeunes comme ça pour le.
Génial.
Voilà.
Et avant cela, on gagne le titre de champion de France avec Mende. On monte 3 divisions et on gagne le titre. Et après, on te laisse y aller. Allez, on rappelle
Ludo aussi, pour sa retraite, il a prévu un studio d'enregistrement devant chez lui.
Voilà, exactement.
Ouais. Avant de conclure avec Constant sur ce point-là. Peut-être dire que le Mende Volley Lozère, s'il n'est pas un club professionnel, il y a encore, en tout cas, ce qui s'en rapproche le plus, parce que c'est vrai que vous et le club te mettent, toi, dans des conditions pour être quasiment professionnel et font en sorte que les joueurs aussi aient le plus de facilité pour s'en rapprocher, quoi.
Oui, c'est vrai que la ville de Mende, déjà, fait beaucoup d'efforts. pour soutenir tous les clubs de la ville, hein, c'est pas évident. Et puis c'est vrai que nous avons des dirigeants assez dynamiques qui cherchent des sponsors. C'est pas évident tout le temps, mais bon, on essaye de faire pour exister à ce niveau-là. On pense qu'on a le potentiel d'y être. On pense que en termes de public, parce qu'on voit toutes les salles, hein, le Pihancourt, c'est l'une des meilleures salles en termes d'ambiance. Donc
il y a beaucoup de monde au match.
Il y a beaucoup de monde, il y a une ferveur autour de ce club-là. On pense que l'élite, c'est le niveau qui nous correspond le mieux. Mm. On a le plus petit budget. On essaye, avec d'autres moyens, avec un peu d'intelligence, avec un peu d'anticipation, pour exister, tout simplement.
Oui, une ville de 13 000 habitants en élite, il faut le dire, c'est quand même énorme. Les gens ne se rendent pas compte
du travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous avons des dirigeants qui travaillent pratiquement 24 heures sur 24 pour essayer de faire vivre ce club-là. Ça demande beaucoup de sacrifices. À mon niveau, je ne compte pas mes heures. Et heureusement que j'arrive à recruter des jeunes qui viennent ici, qui ont envie de découvrir des choses, donc avec leur volonté et l'envie peut-être d'aller au haut niveau. Ben voilà.
Tu parles de recruter des jeunes. Est-ce que dans le club, il y a, je sais pas comment on appelle ça, un centre de formation, est-ce qu'il y a des équipes de jeunes qui permettront de sortir des jeunes lausériens
Maxime Meunier, l'entraîneur de l'équipe de réserve, fait un gros travail là-dessus. Nous sommes toujours très très bien représentés au niveau Coupe de France et jeunes, à tous les plateaux, la ville de Mende est représentée. Là, ils sont arrivés, je pense, au 8e tour,
l'année dernière, très
beau parcours avec les cadets. Et en parlant de jeunes, nous avons Kevin Velay qui est formé au club, qui est stagiaire pro à Nice.
À Nice, ouais.
Voilà. Il y a Julien Boudon, formé au club, qui est passé chez nous l'année dernière, qui a signé professionnel à Nice cette année. Donc je vois pas. Donc là nous avons Mathieu Sarus qui a un potentiel pour devenir professionnel. Donc je vais dire, il y en a pas beaucoup dans notre division qui sont des joueurs.
D'accord.
Il y en a pas beaucoup.
On parle rarement ou peut-être jamais de l'équipe féminine du Mende Volleyball.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette équipe?
Donc
quelle division, etc.
C'est Amal Baïch qui s'en occupe. Elle s'occupe de toute la formation chez les filles. Mmh. Et les filles jouent en régional. Donc la problématique de cette équipe-là, c'est parce que c'est une équipe de régionale qui joue chez les seniors avec les cadettes.
Ah oui.
Voilà, c'est ça.
Donc il y a l'impact physique
qui joue avec compliqué. Des cadettes et des cadettes qui vont après le bac peut-être partir. Donc elle est sans cesse dans un renouvellement perpétuel. Donc pour que cette équipe arrive au niveau pré-national et pour essayer de la pérenniser à un certain niveau, il faudrait peut-être une ou deux anciennes, celles qui ont été formées, qui partent et qui reviennent, comme c'est souvent le cas parce que la Lozère elle manque, pour essayer de pérenniser. Mais c'est chez les féminines, nous sommes représentés à toutes les catégories.
Elles sont classées combien là, ce que tu sais?
Quatrième, je crois troisième.
Troisième, mieux que les garçons.
Ah, mieux que les garçons.
D'accord,
c'est le cas de le dire.
Il faut que tu fasses jouer des cadets, alors peut-être.
C'est pas pareil. Vous avez déjà annoncé que vous ne monteriez pas. Vous pouvez dire à la Ligue si vous montez ou pas, apparemment. Oui. Est-ce que quelque part, c'est pas. Pour vous, vous savez que dans tous les cas, vous ne pouvez pas monter, même si vous gagnez, vous ne montrez pas, c'est trop compliqué.
Vous le voyez comme un manque d'ambition?
Non. Est-ce que pour vous, entraîneur, ce n'est pas gênant, ce n'est pas un peu blasant de se dire, dans tous les cas, on ne peut pas monter, on n'a pas le budget pour?
Moi, en tant qu'entraîneur, je vais gagner tous les matchs. C'est aussi simple que cela. Après, comme je vous disais tout à l'heure, les classements, tout ça.
C'est le jeu avant tout.
Je fais partie des gens qui pense que il n'y a pas de concurrence entre des personnes. Parce que nous sommes tous uniques, nous sommes des créatures de Dieu, et que notre réussite sera en adéquation avec toutes les capacités d'exceller, de pouvoir optimiser le potentiel que nous avons eu. C'est-à-dire qu'en termes de club, je m'en fous des adversaires. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec mon équipe, nous sommes partis d'un point bas, A, on va arriver à un point B, on va se donner les moyens d'y arriver. Tout simplement. Après,
Et le point B, ça ne peut pas être la Ligue B?
Ça peut être la Ligue B à terme. Vous savez, il y a quelques années, je pense que les dirigeants ne savaient pas qu'ils allaient être aussi débordés avec... il y a quelques années, le club était en pré-national. À l'époque, le rugby était en fédéral 2, le hand était déjà national 3, le foot était en CFA 2, le volley était en pré-national. Donc il y a des choses comme ça, des événements qui font que... Mais force est de constater qu'il y a quand même un certain engouement qui peut faire que les choses se décantent, mais d'elles-mêmes. Après, il faut rester quand même humble et laisser les choses venir à soi. Et puis c'est un club qui est quand même déjà assez pérenne, qui va durer.
C'est l'essentiel. Luc, tu voulais intervenir ?
Ouais, je voulais demander à Constant si dans son rôle d'entraîneur, c'était important pour lui d'avoir des jeunes joueurs qui puissent amener plus tard
c'est la base.
Vers le niveau pro, éventuellement.
C'est la base. C'est-à-dire que nous avons chaque année... Chaque année, on va toujours essayer de prendre des joueurs. On va essayer de regarder ce qui se fait dans des équipes de jeunes, prendre des joueurs qu'on va essayer de développer pour qu'ils essaient d'aller ailleurs. Qu'on soit un club déjà phare au niveau de l'élite. Après, si on peut être un club passerelle, où les gens savent qu'ils vont venir en main de faire une ou deux saisons pour essayer de partir, ce serait vraiment quelque chose de magnifique, en sachant qu'on aura quand même toujours ces anciens qui sont des piliers, qui seront là, pour les encourager.
Alors c'est beau hein, parce que Luc entraîne une équipe de basket, les baskets féminines de Mende, et lui, peu importe la façon de jouer, c'est la victoire qui compte. Donc ta façon de voir est beaucoup plus belle. Laurent, tu veux intervenir?
Moi je suis comme Luc, même un match qui est mal joué, s'il est gagné, je l'ai déjà dit la semaine dernière.
Ça c'est les Marseillais, ça. Ils ont tellement vu du jeu pourri pendant 10 ans qu'ils disent ça.
Non, la finalité dans le sport c'est la victoire pour moi.
Moi je suis comme Constant.
Le problème c'est que vous, des grands journalistes comme vous, vous suivez le sport depuis longtemps, vous savez très bien que les victoires, c'est une question de cycle.
Oui.
Donc, à un moment donné, c'est la base qui est la plus importante, parce que les victoires, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas. Donc, il y a des périodes où le Real de Madrid gagne, après c'est Barcelone,
après c'est Madrid.
Marseille, pendant longtemps, ils n'ont rien gagné.
Mais c'est vrai ça.
Ils n'ont rien gagné pendant les années 90, ils gagnaient tout. Mais par contre, si votre club existe uniquement par la victoire et la défaite, c'est un club qui va s'effondrer, parce que quand il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de club.
Non mais c'est là où je parle, c'est au niveau mental des joueurs. Il faut que les joueurs ils soient comme toi, comme tu nous disais. Il faut qu'ils rentrent sur le terrain en se disant il faut absolument gagner. Après tu perds parce que l'adversaire est meilleur que toi, ça arrive. Mais il faut avoir déjà un mental de tueur, quoi.
Oui, ça c'est sûr, mais après
d'un avis, il vaut mieux être
le chasseur que le chassé
ou le boucher que l'agneau.
Sauf qu'en tant qu'entraîneur, il faut toujours regarder de manière globale.
Et oui.
Parce qu'il y a des victoires qui sont trompeuses. Et parfois les grandes victoires sont les cimetières des petites équipes. Il y a parfois des grandes victoires qui peuvent vous tuer complètement une saison, vous tuer complètement une équipe, parce que vous ne l'avez pas su, vous l'avez pas... C'est un processus gagné, il faut l'apprendre à gagner. Des grandes victoires peuvent complètement tuer une équipe, parce que ça amène des égos surdimensionnés, des jalousies, des trucs, parce que vous n'avez pas été préparé à ça à la base. Donc c'est un tout.
Ouais. Allez, super, merci.
Je n'arrive pas à la FL3.
Merci Constant.
Non.
Mais par contre, le discours qu'il vient de tenir, ils se le disent dans les vestiaires.
Non, moi je vous le dis à moi-même. On est des guerriers.
Allez, au classement, Fréjus 24 points, Les Herbiers 16 points, Iac 16 points, Conflans, Andrézy 14 points, Mende à 11 points, 5e, Mérignac 11 points, Grenoble 10 points, Brive 6 points. On le rappelle, samedi, prochain match contre le leader à Mende. C'est à quelle heure? C'est toujours le soir, Constant?
À 20h30, c'est ça.
À 20h30. Si vous voulez voir une grosse défaite de Fréjus, n'hésitez pas à aller au gymnase. On croit au MVL. De toute façon, on vous suit chaque lundi. Constant, tu restes avec nous. On va parler maintenant de l'actualité nationale et internationale. Oui. On va également parler de volley. Alors, après ACDC la semaine prochaine, il faut savoir que Laurent écoute en boucle ACDC Bob Marley. Donc, on change maintenant. On va écouter un petit Bob et on se retrouve de suite après. Every day we pay the price, we're the level sacrifice.
Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop to our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Allez, c'est reparti. Tu disais, Laurent ?
Il y avait 3 secondes pour engloutir sa tartine de pâté.
Allez, prends un peu plus de temps. Je vais parler pour te laisser le temps de l'engloutir. Alors, on a reçu un SMS. Quelqu'un a vu Patrick tituber devant la caille. Donc, si vous pouvez le ramener avant la fin de l'émission, ou du moins le ramener chez lui, ça serait bien.
Ouais, parce que pour venir, il n'est pas du bon côté pour venir à l'émission. Là.
Apparemment, il se trompe. Il part vers le chapitre. Ah, donc, il faut rappeler, on est rue des Clapiers, voilà, en direct de nos studios.
C'est samedi à Andrézieux-Boutéon à 16h et pas au chapitre.
Voilà, exactement. Alors, l'actualité nationale et internationale, on va parler football, volley, basket et tennis. Mais avant cela, on va tout d'abord revenir sur les pronostics de la semaine dernière, car l'un d'entre nous, et pour une fois ce n'est pas moi, a trouvé le bon résultat pour Paris-Ajax d'Amsterdam. Alors pour Monaco, on s'est tous trompés, mais j'ai gardé l'un de nos pronostics, car l'un d'entre nous est passé complètement à côté. Allez, on écoute de suite ses pronostics. Allez, pronostic pour la semaine prochaine, Ligue des Champions, Paris reçoit ou l'Ajax d'Amsterdam. Pronostic, Maxime.
Moi, je pronostique une victoire parisienne par 2-0, doublé d'Ibrahimovic.
Très bien. Marie, tu peux dire ce que tu veux.
Moi, victoire de Paris 2-1.
2-1. Ok, Patrick.
Mais je vais essayer un peu de me démarquer. 3-1 pour Paris.
Ok, Luc.
J'ai essayé de me démarquer. 3-0 pour Paris.
Ok.
0-0.
Allez, 4-0 Paris. Monaco se déplace au Bayer Leverkusen. Match difficile.
Non, il y aura très certainement 3-0 pour le Bayer Leverkusen.
Voilà les pronostics. Très certainement 3-0. Mais Laurent.
C'est vache ce que vous faites. Hein,
Laurent, sans déconner.
Non, mais c'est vrai que le match s'est joué à pas grand chose. Un but de Monaco,
trois
ratés de Leverkusen et
faisait 3-0.
Voilà, ça faisait 3-0.
Voilà. Bravo à Patrick qui a trouvé le bon résultat la semaine dernière. C'est quand vrai. Il est à Jeun, il est très fort sur les pronostics. Allez, on parle maintenant de volley. Liga à Constant, Cannes est invincible. L'équipe gagne à Tours 3-7 à 2. 8 journées, 8 victoires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Le championnat est-il déjà joué ou pas?
Ben, Cannes, c'est une très très belle équipe avec Kolakovic, l'ancien entraîneur de la Serbie, qui a été médaillé de bronze avec cette équipe-là aux Jeux Olympiques. C'est un très très bon collectif. Mais le championnat n'est pas encore joué. Il reste beaucoup de matchs. Il y a Tours qui sera là, qui sera présent pendant les playoffs. Il y a Ajaccio qui essaye de construire une belle équipe depuis pas mal de temps. Non, la saison est encore longue, mais oui, Cannes fait clairement figure de favori.
Voilà, le titre. 8 matchs, 8 victoires.
C'est aussi une paire de volets.
À Cannes, oui,
Cannes,
toujours.
Ouais, un historique avec Alain Fabiani. Sûr, ouais.
Et chez les féminines aussi.
Cannes, Fréjus. Vice-champion d'Europe plusieurs fois. Ouais.
Ouais. Alors, suivent 4 clubs à 5 victoires. Ajaccio, 7, Tours, Toulouse. Alors, Toulouse, je ne savais pas qu'ils étaient bons en volet.
Oui.
Oui, ouais. Depuis quelques années. Oui.
Depuis quelques années. Ils ont parlé en off avant le début de l'émission d'Ajaccio. Pareil, je savais pas bien. Et toi, tu les suis, Ajaccio,
oui,
tu les connais un peu.
Je connais Fred Fernandez, l'entraîneur. Ça fait un petit moment qu'ils essayent de construire un gros projet. Comme quoi, il faut du temps pour arriver à construire une équipe. Ils étaient souvent entre la Ligue 1 et la Ligue B. Et là, finalement, ils arrivent à pérenniser. Et visiblement, ils commencent aussi à avoir du budget parce que ça... Il faut pas, voilà, on en a besoin. Et là, oui, ça commence à être une équipe stable, une équipe, ouais, une place forte du volleyball français.
Ouais, on peut dire également Tourcoing, qui est un club historique en volley, hein, Tourcoing, qui est mal classé, hein, 8 matchs, 8 défaites dernier.
Voilà, Tourcoing, et ils reviennent, ils sont en construction avec Olivier Local, entraîneur, qui est très bon entraîneur, qui est à Poitiers, il a gagné le championnat de France avec Poitiers. Ils sont en construction, ils n'ont plus les mêmes moyens, parce que ça revient toujours, on revient toujours au budget, aux moyens.
Un club que tu connais bien en Ligue B, Alès,
ouais, Luc. C'est Alès qui est passé leader de Ligue B. Ouais, c'est un club que Constant connaît bien, puisqu'il y a joué.
Oui, l'année de la montée en Ligue B, oui, j'ai joué. Et avec le manque de volley, cette année, on les a battus pendant les matchs de préparation. Donc, c'est une belle équipe. Il y a Bati qui est la valeur ajoutée, le pointu qui vient de 7. Et puis, pour moi, la meilleure recrue de la saison, c'est l'entraîneur, c'est Radko Peris, qui vient de Cambrai, qui est un très, très bon entraîneur, qui était un très bon joueur, très très professionnel, donc je ne suis pas trop surpris de leurs résultats.
Ouais, un club qui a une jolie histoire, puisque le président qui est là depuis, je pense qu'une bonne vingtaine d'années maintenant, le président Amselem, qui a ses deux fils qui jouent en Ligue B, donc Charlet et Benjamin, pareil, avec qui Constant a joué, je pense que Charlet devait tout juste commencer, non?
Oui, il était encore tout petit, Benjamin était aussi à ses débuts, à cette époque-là, bon. On s'est fait vieux, ça ne rajeunit pas.
Ça ne rajeunit pas.
Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Ils ont un gros potentiel à l'essai. Normalement, c'est une équipe potentiellement qui doit être en Ligue A.
Tu restes en contact, notamment, parce que je crois que c'est Benjamin Prado qui vient d'Alès. Il y a des échanges entre vous des jeunes du centre d'Alès qui peuvent venir ou des choses comme
non,
ça?
Non, pas du tout, parce que chaque club veut garder ses jeunes. Mm-hmm. Donc nous, on essaie juste de proposer autre chose. Comme je l'ai dit, j'ai eu à le dire une fois, on essaie de proposer autre chose, un challenge sportif un peu plus élevé, des conditions un peu plus familiales. Donc on essaie de faire penser la balance sur nous. Après, je suis en très bon contact avec Elie Meret, qui est le responsable du centre de formation, que je connais très bien. Après, voilà.
Allez, voilà pour le volley. Merci Constant. On n'en parle pas souvent du volley, mais c'est une chose importante.
Merci.
On va parler Cameroun un peu, parce qu'en tennis, Yannick Noah vient de faire un appel du pied aux joueurs pour reprendre l'équipe de Coupe Davis. Alors, bonne ou mauvaise chose, Constant?
Bonne chose. Bonne chose, comme il a dit, il est le meilleur palmarès du tennis français depuis 50 ans. Bon, c'est lui qui l'a dit et c'est vrai. Bon, après, il a gagné la Coupe Davis. Donc, il sait de quoi il parle. Il a été un très bon capitaine, apprécié de tout le monde. Et puis, c'est une génération qui arrive un petit peu sur la fin. Ça commence à 29 ans. Tchonga, cette génération de mousquetaires, ça commence à peser. Ils le font l'électrochoc. Je pense que lui, il peut venir leur donner peut-être le surplus d'âme qu'ils n'ont pas, peut-être l'envie, après avoir. Il faudra qu'il soit 100% investi. Ça va signifier qu'il faut qu'il arrête
un peu la
plus de concert, parce que sinon,
sinon
tu peux pas. C'est comme certains entraîneurs qui font de la radio. Bon, je veux pas parler du rugby, je veux pas parler des Galtier. Ouais. Mais bon, à un moment donné.
Oui, il faut choisir.
Il faut choisir.
Tu as raison. Luc, bonne ou mauvaise chose?
Moi, je suis un peu l'avis de Constance. C'est-à-dire que si il est à 100% dans son rôle de capitaine de l'équipe de France et pas juste je suis capitaine de l'équipe de France 5 jours avant la Coupe Davis. Oui, effectivement, c'est quand même au niveau du tennis, même si il y a peut-être certains auditeurs qui ne savent pas que Yannick Noah a été probablement le meilleur joueur de tennis.
Quand même.
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent Yannick Noah
que par la musique.
Comme chanteur. Ouais. Mais il a été un très bon capitaine de Coupe Davis, il a été un très très bon joueur, c'est quand même le dernier à avoir gagné Roland-Garros.
Le seul, oui.
Il y en a eu dans les années...
Oui, le seul de notre époque,
De notre époque. Je pense que si il prend cette mission là entre guillemets à temps complet, je pense que c'est une bonne chose.
Ouais, mais alors attends, Coupe Davis, l'entraîneur à Coupe Davis, il y a que 3 rassemblements par an. Est-ce qu'il a besoin d'être là tout le temps? Non, aussi, je suis pas convaincu.
Je pense qu'il a besoin de temps pour aller observer les joueurs, pour aller leur parler. Oui. C'est sûr que si tu veux avoir les joueurs entre deux concerts à Munich et à Fréjus
et à Ibiza,
c'est compliqué. Je pense que c'est faut pas qu'il arrête définitivement sa carrière de chanteur, quoique. Mais
peut-être.
Je pense qu'il faut quand même une certaine implication pour justement aller. Aller observer les gars, aller leur parler, aller voir.
Après, il n'y a pas tant de joueurs de tennis français qui ont la carrure, le charisme pour reprendre l'équipe de tennis non plus, quoi.
Mais
c'est ça aussi, il faut regarder qui c'est qu'il y a dans le tennis à l'heure actuelle. Guy Forget, il y en a un peu marre. Il y a
après,
qui Benetto.
Qu'est-ce qu'on fait d'Arnaud Clément?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais rebondir.
Voilà, faut pas oublier ça.
Arnaud Clément, pour sa première saison, il fait quand même une finale de Coupe Davis.
Ah, mais il n'a pas dit qu'il arrêtait? Non,
je sais pas.
Non, d'accord. Non, c'est surtout Yannick Noah qui s'est un peu imposé. Je trouve que la manière est pas très jolie.
Ah oui, si Arnaud Clément a pas décidé d'arrêter,
Yannick Noah s'impose un petit peu.
Son contrat a son terme là.
Le contrat il a son terme. Donc il dit au cas où je suis là.
On peut discuter.
Après, moi, je trouve qu'il a fait du bon taf. Arnaud Clément. Après, il a eu ce problème de la finale là avec son gars qui était blessé et puis Richard Gasquet qui a, on parlait de mental avec Constant tout à l'heure. Je pense que le vrai problème de Richard Gasquet,
c'est son mental. Depuis toujours, quoi.
C'est dommage.
Le problème aussi, ils ont décidé de jouer sur terre battue. Ils n'auraient pas pu décider de jouer sur caillou ou un truc comme ça, tu vois, pour que les Suisses soient
sur un sol
dur.
Ou dans
de l'eau.
Sur gravier.
Tu vois, comme ça, les Suisses, Federer, gravier, ils n'y arrivent pas.
Ils n'ont même plus demandé de faire la pétanque. Parce que la Suisse en pétanque.
Ouais, ils sont nuls. Allez, on suivra ça aussi en basket. Alors, une stat depuis hier à Los Angeles, on va parler de NBA un peu. On est obligé d'en parler. Kobe Bryant est devenu le premier joueur à cumuler à la fois plus de 30 000 points et plus de 6 000 passes décisives en NBA. 20e triple-double de sa carrière. Donc hier, 31 points, 11 rebonds, 12 passes. Alors lui, Kobe, qu'on dit vieillissant, ben voilà, il rajoute un record de plus à son palmarès.
Oui, un record de plus. Kobe, qu'on dit vieillissant, et c'est surtout son corps qui dit qu'il vieillit.
Il a des problèmes au genou.
Il a enchaîné les graves blessures ces derniers mois. Après, ça reste un fantastique joueur. C'est vraiment le prototype du joueur qui a défaite en horreur, qui supporte pas ça. Mais j'avoue qu'il y a une
stat qu'on dit individualiste.
Alors, c'est là où j'allais me dire. Au début de sa carrière, je pensais pas qu'il attendrait les 6000 passes décisives. Je pensais à 10, 12 maximum. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, il est devenu un super, super joueur. Et autant moi, au départ, j'étais pas très fan de ce joueur. Mais je pense qu'en vieillissant, il est devenu vraiment quelqu'un de...
Vous parlez de son âge, c'est quel âge il a?
Il a 32
ans. 36 Ah, 36
37.
37, ouais, mais il est jeune alors.
Ouais, pour le basket, il est jeune, mais pour le basket.
On va se souvenir qu'il a eu rupture du tendon, je crois, l'année dernière. Il a enchaîné avec une fracture. Avec une fracture.
Sur ce joueur, Constant?
C'est un super joueur. Très, très bon joueur. Bon, après, je ne suis pas fan. Je ne suis pas un grand fan de Kobe Bryant parce que c'est quand même un joueur assez individualiste, quoi qu'il en soit.
Oui.
Et c'est cette mentalité américaine à la recherche de records. Parce que on parlait de ça, mais le bilan de son équipe, je crois qu'ils sont à 3 victoires ou à 4 victoires.
Voilà,
donc il prend tous les tirs, c'est normal.
Il prend tout le salaire aussi.
Je suis plutôt fan des joueurs comme Tim Duncan, San Antonio Spurs. C'est ce genre de joueurs qui se sacrifient pour les autres, qui baissent son salaire parce qu'il veut qu'on prenne un joueur meilleur pour continuer à gagner. Voilà.
Et la preuve, les San Antonio Spurs qui sont restés ensemble depuis toutes ces années, ils ont enchaîné les titres.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur San Antonio Spurs, qui prépare activement la retraite de leur mentor de Greg Popovich, et il semblerait que le remplaçant de Greg Popovich, et ça va être une vraie petite révolution NBA, c'est Ettore Messina qui est là aussi. C'est qui Ettore Messina, c'est un des meilleurs entraîneurs de basket européen, c'est un Italien. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ce gars qui a à peu près tout gagné, tout ce qui peut se faire en Europe, a eu l'humilité de partir à NBA pour devenir assistant coach.
Il est l'assistant de Popovich.
C'est un peu comme si je sais pas, je vais te dire
Aimé Jacquet
ou Carlo Ancelotti décidaient d'aller être assistant de
Mourinho,
club de MLS. Donc c'est Et je pense que c'est en plus dans cet esprit-là. Et ce serait le premier Européen à devenir head coach d'un club NBA.
Non.
Ah bon ?
Non, à l'heure actuelle, il y a un coach qui a gagné l'Euroleague en Turquie. Ah, il est américain.
Il est passé l'internet de Cleveland.
Voilà, de Cleveland.
Ouais, il est un peu compliqué.
Ouais.
Israélo-américain.
Israélo-américain.
Ah, d'accord. Ça. Ah, ok. Oh, bon, très bien à suivre.
Là, ce serait, si tu veux, Messina, c'est le premier, on va dire, oui. 100% pur produit. 100%.
Et les Spurs ont pris une femme aussi en assistante. Hein.
Exactement.
Ça, c'est une première aussi, il me semble. Ouais. Très jolie, d'ailleurs.
Oui, mais qui était d'ailleurs joueuse aussi. Très bonne joueuse.
Et puis, il faut dire qu'à San Antonio, tous les assistants coachs de Popovich deviennent des head coachs après.
Ils se font piller par les autres clubs pour être à la tête des équipes.
Ça, c'est le club parfait. Mm. Le meilleur collectif de basket, c'est... Voilà, c'est magnifique.
On est d'accord. Et de plus en plus de Français qui réussissent en NBA, il faut quand même le dire, parce que c'est jouer en NBA, c'est pas n'importe quoi.
J'ai essayé, mais ça n'a pas marché.
D'ailleurs, je pensais qu'il te prendrait, c'est Antonio,
head coach. Alors bon, on négocie pour l'année.
Il faudrait déjà que tu réussisses à monter et après.
Ah bah ça, c'est... Moi, je crois que c'est mal barré.
Allez, arrête, Luc. Allez, en foot, alors on connaît le nom de la mascotte de l'Euro 2016, Super Victor, donc on s'en fout un peu, mais ça reste une info.
Non, on s'en fout pas parce qu'on aurait pu avoir Dribblou.
Voilà, Super Victor qui a reçu le plus de votes d'internautes devant Dribblou et Goalix. Alors, on peut voter par internet, il faut savoir que Laurent a voté pour Goalix et non. Alors, c'est pas un coq cette fois, c'est un garçonnet en tenue de footballeur bleu et blanc avec une cape rouge et un maillot floqué du numéro 16.
Comme quoi les amateurs de foot ont encore un peu de goût parce que bon.
Oui, Goalix. Mais ouais, dommage, tu passes à Laurent.
Goalix, ça ressemblait quand même à Footix.
Ça ressemble à Footix.
Allez, on finit, nous reste 3 minutes avec le football. Paris et Marseille creusent l'écart et les Verts remportent le derby. Alors tout d'abord, vendredi, Marseille gagne à Nantes 2-0. Samedi, Paris contre Nice 1-0. Au classement, premier Marseille 34 points. Deuxième Paris 33 points. Et troisième Lyon 27. Donc 6 points d'écart entre Lyon et le second et 7 avec le premier. Un petit écart, Luc. Hein.
Oui.
Ça commence là, ça y est.
Ça commence. Bon, de toute façon, on peut clairement dire que le titre va se jouer entre Paris et Marseille. Entre un Marseille qui est en train de retrouver un peu toutes ses qualités de début de saison, qui a connu un
beau match contre Nantes.
Ouais, beau match contre Nantes. Et un Paris qui est toujours aussi inconstant, qui est capable de faire une demi-heure de rêve contre Nice et de faire à peu près une heure, et notamment une dernière demi-heure, une dernière minute, une des 30 dernières minutes assez catastrophiques, où ils sont passés très très près de la correctionnelle. Après il y a le Barça qui vient
Barça, ouais.
Oui, ouais. Enfin, il y a le match du Barça qui arrive. Donc, est-ce que
pas
ça
cette
joue
semaine, celle d'après, ouais.
Est-ce que ça joue
le Barça qui gagne de son côté aussi.
Le Barça qui gagne de son côté.
Constant, tu supportes une équipe
Je suis obligé de le dire.
Oui.
Je suis un supporter du Paris Saint-Germain.
Ah non. Luc aussi, hein. On sait très bien. De toute façon, on ne peut pas aimer Marseille. Il n'y a que Laurent.
Pas beaucoup. C'est Saint-Etienne.
Bon, ouais.
C'est une belle victoire hier.
Ouais. D'ailleurs, on va parler du derby. Ouais. Voilà,
moi, je suis un grand fan du PSG depuis les années de George Weah.
Eh oui.
Voilà. Quand on était petit, c'est ce qu'on voyait à la télé. C'était voilà. Donc, je suis resté dessus.
Il y avait Francis Liasser aussi.
Très fidèle, je suis assez déçu.
Il faut être supporter de Montpellier en étant Camerounais, Mia là.
C'est vrai qu'il y a Roger Mila, mais bon, nous ça fait un peu loin. Georges Weah, c'était l'époque, la grande époque avec Ginola, Valdo,
Liasser toujours aussi.
Il y avait Francis Liasser qui faisait du boulot.
Assez
besogneux, mais il faisait du boulot. Il est en faux. Ouais. On peut citer Eric Dimeco aussi pour vous les masser. Hein.
Il joue mieux que Liasser et Dimeco, c'est autre chose.
Ouais. Jouer, je ne sais pas si c'était vraiment le terme.
Jouer, ce n'est pas le terme.
Il rasait plus près.
Donc, Laurent, tu ne fais pas parler sur Marseille-Paris et l'écart. On va te faire parler sur Lyon-Saint-Etienne. Tu as eu le derby hier ou pas ? Saint-Etienne-Lyon.
Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu le résumé.
Ça avait l'air bien.
Ouais. Ça avait l'air sympa.
Très beau match.
Les Stéphanois avaient l'air très joyeux.
Ouais, moi Luc, il l'a vu. Ouais, je l'ai vu. J'ai trouvé les Stéphanois vraiment très, 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 très bons.
Un vrai derby, de l'engagement, derby, ouais, des actions. C'était très, très beau. Moi, je l'ai vu, je me suis régalé.
C'est vrai que ça fait quelques... Le Classico avait été un super match. Mmh. Ça fait quelques... Alors, autant, visiblement, le fabuleux Evian Tonon-Gaillard en avant Guingamp
que personne n'a vu à part les gens d'Evian ou de Guingamp.
C'est une purge majuscule.
Ah, mais avec un joli coup franc de Daniel Valls.
Oui, Valls.
Manuel Valls.
Manuel Valls. Oui, alors excuse-moi, mais moi...
Non, sans intérêt.
Bah, le problème, c'est que si c'est juste pour voir un coup franc dans un match, quel intérêt d'y aller. Parce que si pendant 89 minutes, tu te fais chier...
Tu regardes le résumé, voilà.
Oui, voilà. Voilà.
Bon, ouais. Après, non, mais après, le derby était très, très... franchement, très intéressant. Vraiment du jeu.
La Cazette rate un péno.
Je devais zapper sur...
Je sais plus.
Il y avait déjà 3-0 ou
2-0 ? Je crois qu'il y a 3-0 déjà.
Ah, d'accord.
Mais
non, tu sais pas en fait.
Bah, je sais plus parce que j'ai zappé sur le...
Il y a 3-0.
Il y a 3-0 parce que j'ai zappé sur le match de basket en fait. Après.
Ah, moi aussi j'ai zappé sur le match de basket. Trop long, les matchs en direct de NBA, mais c'est une horreur quoi. Ça dure 4 heures, il y a 50 pubs.
En fait, vous étiez ensemble en fait. Vous vous êtes zappé.
Non.
Ah, d'accord.
Non, on se parle pas de toute façon.
Oui, on se voit pas en dehors de l'émission.
On fait un petit pronostic là pour
finir. Allez, on finit avec un pronostic. On va faire un pronostic local avec la Coupe de France. On aurait pu pronostiquer également le match contre le leader du MVL, mais comme il y a l'entraîneur avec nous, c'est pas équitable, donc on peut pas le faire. On va faire le foot AFL, non, Andrézieux AFL.
Andrézieux AFL.
On va commencer par Constant. Alors, combien ?
Je vois bien 2-1 pour l'AFL.
D'accord. Match après prolongation ou non, pendant le temps réglementaire ?
Pendant le temps réglementaire.
Très bien, Luc.
Et l'AFL au pénalty, un partout, à la fin du temps réglementaire.
Ouais, alors moi, vous avez pu constater que je me suis trompé la semaine dernière. Là, j'aimerais qu'on gagne au pénalty. Victoire de l'AFL au pénalty avec un 0-0, match tristouné, mais belle victoire.
Allez, ok.
Et toi, Ludo ?
Moi, je dis 1-0 pour l'AFL. Au temps réglementaire. Tu as dit combien, Constant, toi ? 2-1 ?
Moi, j'ai dit 2-1, mais bon.
D'accord, 1-0.
Il y a un autre Camerounais parfait. Aussi à l'AFL, Alexandre Samba.
Oui, mais d'ailleurs, Constant n'est pas pour rien pour sa venue.
Oui, c'est ça.
Stéphane nous l'a expliqué.
On nous cache rien dans cette émission. Allez, merci beaucoup, Constant. N'oubliez pas, c'est à 21h le match, 20h30 samedi. Venez nombreux pour voir le leader du championnat se déplacer à Mende. Et bien sûr, cette émission sera podcastable dès cet après-midi. Vous la retrouverez rediffusée mercredi à 18h10. Allez, on se retrouve lundi prochain. Promis, certainement avec Patrick, qu'on aura récupéré d'ici là pour une nouvelle émission de l'Instant Sport. Ciao, ciao à tout le monde. Bye.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est les Street John au couloir numéro 2. Allez, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tapis d'apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.